Bonjour, monsieur Xavier Boujard, vous êtes responsable de l'action éducative de Tara. Quel est votre rôle au sein de ce groupe?
Alors, presque tout est dans le titre, en fait, mais moi, je m'occupe de toutes les actions éducatives. Alors, en fait, c'est très varié chez Tara. C'est-à-dire qu'on a des actions événementielles, par exemple. C'est-à-dire que sur une escale, on va inviter des classes, on va faire des événements. Donc ça, c'est la gestion de l'organisation de ces escales. Mais ça peut être aussi, à un moment donné, créer des contenus pédagogiques. Ça va être des fiches, ça va être des outils qui vont permettre de s'approprier une expédition. Ça va être un travail avec les enseignants en amont pour vraiment que le contenu des fiches soit intéressant. Et puis, globalement, l'idée, c'est d'aller chercher dans l'expédition le contenu scientifique, le contenu de l'aventure humaine et de la transmettre en fait vers les classes et vers les enfants.
Vous avez participé à toutes les expéditions qui se sont déroulées sur Tara?
Non. Alors moi, la vocation de mon boulot n'est pas forcément d'être en mer avec les scientifiques et ni les marins. Je suis ni marin ni scientifique, et donc vraiment ce rôle de transmission, il se passe à terre. Donc je peux ponctuellement aller sur une expédition. Celle où j'ai le plus été, c'est la Tara en Méditerranée quand on s'occupait du plastique, hein, quand on faisait la récolte de plastique, où là j'ai pu aller plus de 15 jours à bord. Mais sinon, habituellement, je ne vais pas sur les expéditions. Donc Tara Océan, l'Arctique, etc., j'y suis pas allé. Voilà, j'y suis pas allé.
Qu'est-ce que signifie Tara?
Donc comme je le dis habituellement, c'est une histoire à trois étages. Donc le premier étage de la fusée, c'est Tara, c'est la capitale de l'île d'Irlande au Moyen-Âge. C'est une ville au centre de l'Irlande dont on peut visiter les ruines et qui était vraiment la capitale de l'Irlande. La deuxième étage de la fusée, c'est il y a un roman qui s'appelle Autant en emporte le vent, qui est un roman très célèbre dont a été tiré un film, dont l'héroïne s'appelle Scarlett O'Hara, est d'origine irlandaise et dont la famille a une propriété qui s'appelle Tara. C'est la maison familiale de cette famille. Et le troisième étage de la fusée, qui arrive vraiment au bateau, c'est que le grand-père d'Étienne Bourgois, qui est le propriétaire du bateau, appelait ses bateaux, depuis maintenant plus de 50 ans, a appelé son premier bateau Tara, parce qu'il adorait ce roman-là. Et donc ce Tara-là, en fait, c'est un Tara numéro 5, en fait. C'est le cinquième du nom, voilà.
C'est un peu le projet Tara, c'est un peu l'avènement de la vie d'Étienne, enfin du fils.
Je peux répondre. L'avènement, je pense, c'est pas le bon mot, mais c'est un projet ultra important pour lui. Lui, son travail, c'est d'être PDG de la société Agnès B. Donc, dans le quotidien, il gère vraiment la société. Par ailleurs, c'est une famille où ils sont marins. C'est une famille de marins, c'est une famille qui depuis longtemps a des bateaux, c'est une famille qui adore les milieux polaires. Et donc pour lui, c'était vraiment un projet ultra important. C'est quelqu'un qui a aussi 7 enfants, donc qui est très tourné vers les enfants, pour qui la transmission vers les enfants est quelque chose d'extrêmement important. Et donc du coup, c'est plus qu'un projet phare. Étienne, on le voit très régulièrement à bord du bateau, très régulièrement à bord. Moins souvent, mais dans nos bureaux, on le voit régulièrement, Étienne. Il est vraiment impliqué dans ce projet-là.
Ok. Pouvez-vous nous citer les différents sponsors qui ont été partenaires?
Voilà, m'en rappeler de tous, c'est un peu difficile parce qu'on a beaucoup de partenaires. Dans ceux qui ont été, bon, d'abord on a un partenaire sponsor qui est Agnès B, puisque une grande partie du fond de fonctionnement du bateau, c'est Agnès B. Ils ne sont pas seulement propriétaires, ils participent financièrement au fonctionnement du bateau. Donc ça c'est le premier. Ensuite on a des partenaires comme la Fondation EDF, EDF aussi directement, le groupe EDF. On a Veolia qui a été partenaire mais qui ne l'est plus. On a depuis récemment un papetier suédois dont le nom est imprononçable mais que je vais quand même prononcer, qui s'appelle Billerud Korsnäs. qui est un papetier extrêmement important, qui fait surtout des emballages en fait en papier et qui participe au fonctionnement. Et après, il y a des fonctionnements publics, d'abord parce que il y a de l'argent public, parce que les scientifiques, quand ils viennent à bord, ils restent payés par l'État. Le matériel vient des laboratoires, donc vient plutôt de l'État. Et puis on a des aides régionales, la région Bretagne a pas mal contribué. Sur la partie éducative, on peut avoir l'ADEME, on a des partenariats avec l'éducation nationale. Voilà, donc c'est un ensemble de partenaires assez variés en fait qu'on a et qui changent régulièrement en fait.
Rappelez-nous en particulier qu'est-ce que ce bateau, qu'est-ce qu'il a de particulier ce bateau ?
Alors sa première particularité en fait, c'est déjà dès la conception, c'est un voilier polaire, et des voiliers polaires il n'y en a pas tant que ça en fait, hein. On n'imagine pas facilement un bateau à voile aller dans les milieux polaires, donc il a été vraiment conçu pour ça, et il a été conçu en particulier pour une chose très particulière, c'est de pouvoir faire une dérive arctique. Alors la dérive arctique, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait de se déplacer sur la banquise, dans un courant de plaques de banquise qui existe entre le nord-est de la Sibérie et le Groenland. Il y a d'autres courants comme ça qui existent en Arctique, mais celui-là c'est le principal. Et il a été conçu pour faire cette aventure-là, c'est-à-dire d'arriver à coincer le bateau dans la banquise, qui se retrouve posé en fait sur une plaque de banquise et qui voyage en fait avec cette banquise au rythme de 2 km par jour à peu près, en étant porté comme s'il était porté sur un radeau. Alors c'est compliqué à imaginer comment on peut faire ça avec un bateau qui fait plus de 130 tonnes. Et en fait, il a une coque particulière avec une forme en noyau d'olive. On dit ça, c'est-à-dire elle est très plate. On peut enlever les dérives, on peut enlever les safrans ou les ce qu'on appelle le gouvernail en général. Et le bateau, on met le bout du nez du bateau sur une plaque de banquise. Et puis autour, la banquise va prendre en masse. Et va entourer petit à petit le bateau et va le soulever. En fait, la forme de la coque et la résistance de la coque permettent qu'il soit soulevé et pas broyé. Et au bout du compte, il se retrouve posé, comme s'il était posé sur un radeau, sur cette banquise. Donc ça, c'est la grande particularité de ce bateau.